RMC, face aux grandes gueules.
C'est le général Vincent Desportes. Musique militaire, bien sûr, qui est face au GG. Mon général, bonjour.
Bonjour.
Ça vous plaît?
J'adore.
Bon,
c'est de la vraie musique, ça, enfin.
Ben oui, enfin. Stratégie, les essentiels, c'est le titre de votre dernier ouvrage, La pensée et l'action, chez Odile Jacob. Ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz n'est pas rassurant. Est-ce que la guerre a repris, finalement, avec ces cargos qui sont visés, un cargo français visé par le régime iranien et un cargo américain qui a été arraisonné par les Américains?
Non, moi je ne crois pas que la guerre ait repris. Moi je pense que des deux côtés, on a envie d'arrêter, mais qu'on est en train de faire monter les enchères. Ensuite, on a eu le clown de service à Washington qui, après que les Iraniens aient réouvert le Détroit, eux ne l'ont pas réouvert, si vous voulez.
Et clown de Washington, pour qu'on comprenne bien, c'est Donald Trump.
En gros.
Vous ne l'aimez pas beaucoup.
Mais c'est pas que je l'aime pas beaucoup.
Bah, vous l'appelez
clown. Il nous casse le monde. Ensuite, il n'arrive pas à trouver de solution. Il n'a rien compris à ce qu'était la diplomatie. Mais si, il ne va pas négocier, c'est ma balle. Il va demander une reddition sans condition. Ce qui est dans la culture américaine, hein, que je connais bien, c'est comme ça. Et donc, ce type-là, dans cette guerre-là, il a fait exactement ce que Churchill disait des Américains. Il disait, les Américains, ça essaye sans mauvaise solution et à la fin, ça en trouve une. Le problème, c'est que quand vous faites comme ça, c'est que quand vous agissez sans stratégie, eh ben, c'est quand même très compliqué de se sortir du foutoir que vous avez organisé.
Vous pensez quand même que les pourparlers vont pouvoir reprendre dans ce contexte?
Alors moi je pense qu'ils vont reprendre parce que les uns et les autres, les deux parties ont besoin, pour des raisons différentes, pour des raisons politiques du côté de Trump, bien sûr. Hein, il est de plus en plus attiré, il se rapproche des mi-termes. On sait que ce matin, il n'y a que 36% de la population américaine qui le soutient. Ça fait pas assez pour garder la Chambre des représentants et il en a besoin. Les Iraniens ont besoin au moins de temps pour se refaire après la très très grosse claque militaire qu'ils ont pris pendant un mois et demi. Et le problème des gardiens de la Révolution qui sont aux affaires maintenant, c'est de rester au pouvoir. Or, si l'Iran est trop cassé par une deuxième vague de bombardement, on va vers une crise économique terrible qui pourrait entraîner leur
crise économique qui, d'ailleurs, est accentuée par le blocus, parce que j'imagine que ce blocus va commencer à leur faire du mal aux Iraniens.
Bien sûr, bien sûr. Alors, on dit que l'argent perdu tous les jours se compte par centaines de millions, 4,5 paraît-il. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent. On dit aussi que les Iraniens avaient accumulé des ressources qui leur permettent de tenir. Mais on voit bien aujourd'hui que ça ne peut pas durer très longtemps. Alors, selon les chroniqueurs, ça peut durer entre un mois et trois mois, mais on voit bien qu'il y a aussi une date butoir. Pour les deux, on s'approche du moment où, quoi qu'il arrive, on devra arrêter.
Le cessez-le-feu s'arrête dans la nuit de mardi à mercredi, hein, officiellement.
Absolument. Nous ne serions pas très surpris si Trump le rallongeait de 10, 15 jours ou plus, puisqu'il le fait à chaque fois. Mais encore faut-il que les conditions aient été créées, que des deux côtés, effectivement, Trump se dit « bon, j'y vais ». Parce que l'autre solution, c'est de commettre des crimes de guerre qu'il a annoncé qu'il allait réaliser dans les semaines à venir. Il a dit « je vais détruire toutes les installations, tous les ponts civils ». Ça s'appelle des crimes de guerre. Convention de Genève de 49 et traité de Tokyo en 1998, si vous voulez. Donc ça s'appelle des crimes de guerre. Donc soit il continue, mais il rentre totalement dans une démarche qu'il ne dominera plus, soit il arrive à négocier. Donc je le répète, et je crois que la plupart des observateurs sont d'accord, à peu près d'accord avec moi, les deux ont intérêt à négocier. Mais personne ne veut perdre la face et c'est pas des bons négociateurs dans ce sens où les Iraniens, on le sait, tergiversent, ne veulent pas déboucher vraiment et pas trop vite. Et quant aux Américains, ils ne négocient pas puisqu'ils veulent la reddition sans condition.
Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez chef d'état-major de l'armée américaine? Qu'est-ce que vous feriez une fois empêtré dans ce merdier? Comment feriez-vous pour en sortir?
Alors, at the first place, comme diraient les Américains, je ne serais pas allé dans ce merdier-là. Et peut-être que Daken a eu du courage parce qu'il a dit, il a dit au président Trump avant le début de la guerre.
Expliquez de qui vous parlez.
Alors, c'est le chef d'état-major des armées américaines qui a dit voilà ce qui risque de se passer. Mais il n'a pas pris position. Il aurait peut-être pu prendre position. Moi, je me rappelle, j'étais diplomate à l'ambassade de Washington, de France à Washington à ce moment-là. Le général Franck qui a dit à Bush fils, n'y va pas. Là, tu rentres dans un foutoir. Et d'ailleurs, vous le savez, n'est toujours pas terminé. La guerre en Irak, 23 ans après. Et donc là, je pense qu'à un moment donné, le chef militaire, il se soumet ou il se démet. Et peut-être que dans cette affaire-là,
il aurait mieux fait. Démettre.
Mais le problème, c'est qu'il a été choisi par Trump. Pourquoi ? Parce qu'il a remplacé quelqu'un que Trump a viré. Et donc, il a été choisi parce que c'était un fidèle parmi les fidèles. Et que donc, ayant été choisi comme fidèle parmi les fidèles, il est resté...
Oui, mais une fois qu'on en est là, une fois que c'est fait là, dans la situation actuelle, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Est-ce qu'ils s'en vont, tout simplement ? Ils retirent les troupes et on laisse les Iraniens reprendre le cours normal de leur existence ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, d'abord, notons que on est dans cette situation-là, non seulement parce que cette guerre n'a pas été pensée au niveau stratégique, mais également parce que Trump lui-même, en 2018, a cassé le JCPOA, et au mieux, c'est-à-dire le traité qui avait été négocié pendant de longues années entre Français, Allemands, États-Unis, et Chine également. Hein, si Trump n'avait pas cassé en 2008 cette affaire-là, on n'en serait pas là. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? De toute façon, on ne sortira de cette affaire-là que par la diplomatie. Il faut bien comprendre une fois pour toutes que les guerres d'aujourd'hui ne s'arrêtent jamais. Les guerres pouvaient s'arrêter avant quand elles étaient un dialogue entre deux autorités politiques. Aujourd'hui, il y a eu une espèce de socialisation de la guerre qui fait que la guerre, finalement, elle appartient au peuple, comme elle a appartenu au peuple vietnamien, au peuple iranien, au peuple afghan, si vous voulez. Donc, cette guerre ne s'arrêtera pas par la force militaire. Elle s'arrêtera par les négociations.
Sauf si le régime était tombé. Parce que on peut imaginer que le scénario qu'on a vendu à Donald Trump et qui était très positif, c'est voilà, on bombarde quelques jours, le régime s'effondre, la population prend le pouvoir et derrière on part sur une nouvelle étape à écrire, un nouveau chapitre à écrire.
Ça s'appelle du rêve éveillé. Parce que quand vous regardez justement les guerres américaines, si vous voulez, il y a eu un accord, hein, et puis deux ans après, les Vietnamiens du Nord sont venus regarder la guerre en Irak. On a dit on va bombarder et on va produire la paix, non seulement, mais une très très belle démocratie jeffersonienne à Bagdad. Ça n'arrive pas. Et en Afghanistan, c'est exactement la même chose, si vous voulez.
Ça n'arrive jamais.
Ça n'arrive jamais. Ça ne peut pas arriver, cette affaire-là. Donc, c'est pour ça que, ce qui est très étonnant, moi je connais assez bien les militaires américains, j'étais deux ans dans l'US Army, j'ai fait l'école des généraux américains, ces gens-là pensent bien. Ils pensent bien, mais à un moment donné, quelqu'un a manqué de courage politique pour dire ne rentre pas à nouveau dans cette affaire-là. Ou alors, il fallait faire de la stratégie. On a compris, encore une fois, que la veine jugulaire iranienne, c'était le détroit d'Hormuz. Alors, il fallait la serrer tout de suite. Alors, on pouvait monter une opération autour
finalement, du c'était plus efficace de bloquer le détroit d'Hormuz tout de suite que de bombarder, en fait.
Mais évidemment...
Après, ça déstabilise aussi le marché du pétrole. Oui.
Mais il est déstabilisé de fait.
Et je pense que là, enfin après, c'est facile de dire derrière. Ah oui, bon, mais néanmoins, vous savez, et vous le lisez évidemment dans mon ouvrage, le stratège va chercher les points de meilleur rendement. Et le point de meilleur rendement, visiblement, c'était pas de bombarder pendant 5 semaines. C'est là, en quelques jours, le détroit d'Hormuz a tout changé. Donc, on voit bien qu'on avait un point de vulnérabilité. Qui pouvait lui mettre attaqué avec des moyens beaucoup plus faibles. Il fallait en même temps prendre tous les moyens pour protéger les pays du Golfe. En se concentrant sur cette affaire-là, et là, on avait quelque chose à faire qui aurait été vraiment stratégique et intelligent.
Zorabitan.
Alors moi, j'ai deux questions. D'abord, la première question, c'est est-ce que les positions de Trump aux États-Unis au niveau de la population, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que les Américains suivent ? Et ensuite, est-ce que cette guerre ne met pas en danger plus que prévu la sécurité d'Israël ?
Alors,
les Américains suivent ou pas ?
D'accord. Alors, je vais vous le dire parce que les chiffres de ce matin, c'est qu'il n'y a plus que 36% de la population américaine qui soutient cette guerre. Oui. Donc, c'est quand même assez clair. Et quand vous allez au mi-terme dans peu de temps, il faut qu'il trouve une solution. C'est pour ça que lui, il veut s'en sortir, si vous voulez. Bon, et est-ce que ça ne met pas plus en danger les Israéliens ? Alors, je dirais, c'était peut-être à eux d'y réfléchir avant, parce qu'on ne peut pas évacuer l'hypothèse qui est la mienne. C'est que quand même, c'est Netanyahou qui a poussé Trump dans cette affaire-là, sur un motif d'ailleurs essentiellement technique. Hein, le 28 février au matin, on a tous les chefs, on tue tous les chefs, et la guerre est terminée. Bon, évidemment, ça n'a pas marché. Donc, alors oui, ça met en danger, mais je crois que là, ils ont créé cette situation-là, les Israéliens. On ne peut pas dire le contraire. Et d'autre part, il y a toujours cette vision qu'on trouve chez un certain nombre de ministres israéliens, ministre des Finances, ministre de la Sécurité, je crois, cette idée du grand Israël. Et je crois, et on le comprend, il y a une réflexion, enfin une pensée israélienne, qui est peut-être pas majoritaire, mais qui est importante, mais qui est de dire on va agrandir le territoire pour être de moins en moins en danger. À mon avis, il y a peu de chances qu'ils lâchent la zone au sud du Litani. Ils ont pris une partie non négligeable de la Syrie. Et Netanyahou et beaucoup d'Israéliens pensent d'ailleurs que ben il faut en passer par là. Oui, ça les met en danger, mais on voit bien d'ailleurs que la population israélienne largement derrière.
Est menacée directement par l'Iran depuis des années. À la limite, Israël a plus de raisons d'en vouloir à l'Iran que les Américains par rapport aux menaces sur le nucléaire, sur les missiles, menaces
sur le terrorisme,
de destruction et sur le financement des proxys comme le Hezbollah ou le Hamas.
Mais bien sûr, on le comprend bien. C'est pour ça que
le 7 octobre a tout changé pour Israël.
A beaucoup changé. Et ce qui est sûr, justement, c'est que les Israéliens, eux, font la stratégie parce qu'ils ont un objectif.
Ils font les stratégies.
Et ils font la stratégie, alors que les Américains sont suiveurs et n'ont pas vraiment d'objectif. C'est un peu la difficulté. Et c'est vrai que l'Iran est une menace existentielle. Mais on était quand même arrivé à peu près en 2018 à une situation qui pouvait évoluer.
Oui, enfin, on a vu que vous avez menti puisqu'il y a des stocks d'uranium cachés.
Non, mais ils ont menti. Ils ont menti. Je vous dis pas que les Iraniens, moi, je suis pas fanat iranien. Attention, hein. Enfin, Hezbollah. Pas Hezbollah, je veux dire du régime.
Voilà.
Du régime.
Enfin, ils financent quand même le terrorisme.
Mais sur l'uranium, c'est bien à partir de 2018 que ce stock-là a été créé. C'est pas avant. Et si le JCPOA n'avait pas été rejeté par Bush, on n'en serait pas là.
Le JCPOA, c'est l'accord sur le nucléaire iranien, qui avait permis à une époque, il faut rappeler à nos auditeurs, qui avait quand même permis à une époque de réouvrir l'Iran, de commencer à commercer entre les pays. Est-ce que vous pensez pas qu'une piste comme ça, elle est plus fonctionnelle que la guerre?
Mais je le pense infiniment. Vous savez, un soldat.
À cette époque-là, les cadres français de nos entreprises allaient tous en Iran pour ouvrir des marchés.
Air France, de nouveau,
et après, ils sont partis d'un coup à cause des États-Unis.
Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il fallait être faible avec l'Iran. Il fallait être très fort, surveillé, etc. Mais quand vous êtes soldat, vous savez bien que la guerre n'est jamais le meilleur moyen. Voilà. Et que la guerre, on doit toujours, ça c'est la vieille rapport entre la morale et la guerre. La guerre doit être le dernier argument, hein, on le dit.
J'ai un déporte, on veut tout et son contraire, pardon, mais quand les Iraniens sont sortis dans la rue et qu'ils ont été très durement réprimés par le régime, on dit entre 30 et 40 000 morts, hein, en 48 heures. C'est-à-dire que le régime a tiré sur sa propre population. Et elle fait un carnage. Pardon, mais à ce moment-là, j'entendais les gens dire bah, qu'est-ce que fait Trump? Pourquoi il attaque pas? Pourquoi il les aide pas à ce moment-là? Pourquoi il bombarde pas pour que les Iraniens puissent se libérer? Puis alors maintenant, on dit à Trump bah, il faut arrêter cette guerre qui ne sert à rien. Alors peut-être qu'effectivement, il fallait que les Américains aident précisément à ce moment-là la population iranienne en aidant à faire tomber le régime.
Mais alors,
aujourd'hui, on serait tous à applaudir en disant oh, Trump, quel stratège formidable.
Ah oui, on peut pas le dire maintenant. Non, mais est-ce que vous pensez vraiment, Monsieur Truchot, que la population iranienne ait été un millième de seconde dans la pensée de Trump? Je ne le pense pas. Pas plus que la population vénézuélienne.
Oui, mais je connais en revanche beaucoup d'Iraniens, même sur place, qui souhaitaient cette intervention
militaire.
Bien sûr, militaire.
Mais parce qu'ils ne comprenaient pas.
Parce qu'ils sont désespérés, ils se disent mais finalement la seule façon de s'en sortir, c'est les bombardements israéliens et américains.
Mais justement, c'est pas les bombardements. C'était possible, il fallait monter une stratégie, si vous voulez. Oui. Il fallait qu'il y ait des troupes locales, et c'était possible de les monter, capables d'aller prendre le pouvoir. Vous savez, vous ne gagnez jamais la guerre en bombardant. Ça, c'est depuis qu'on s'est bombardé, on sait qu'on ne gagne pas la guerre en bombardant. Et donc, il fallait qu'il y ait, et vous gagnez toujours la guerre avec des troupes au sol. Parce qu'à la fin, il faut bien planter votre drapeau ou le drapeau de l'autre, si vous voulez. Et là, il n'y a personne pour
le
faire.
Vous pensez Trump capable d'envoyer des troupes au sol?
Donc, ça aurait pu être organisé, mais avant, voilà. Dans l'ensemble d'une grande stratégie. Et ça n'a pas été fait. Je vous écoute.
Non, est-ce que vous pensez Trump capable d'envoyer des troupes au sol?
Non. Non, pour une bonne raison. Des troupes au sol.
Il y a un passif, quoi. Il y a des dossiers là-dessus.
C'est pas possible pour deux raisons, si vous voulez. La première raison, c'est que quand vous envoyez des troupes au sol, vous le faites ou vous ne le faites pas. Mais si vous le faites vraiment. Ce qui a été fait, à tort ou à raison, dans les deux guerres d'Irak, 90 et 2003. Et là, ils ont envoyé 250 000 personnes. Et pour mettre 250 000 soldats de l'armée de terre en place, il faut 6 mois. Il faut 6 mois. Donc ça nous amène au mi-terme. Ça nous amène au mi-terme. Et après la guerre, elle prend encore 6 mois. Donc on est dans un autre schéma. Je ne dis pas que ça ne se fera pas, mais dans les conditions politiques actuelles dans lesquelles se trouve Trump, ça ne se fera pas.
L'engagement de Trump, c'était pas pour sauver la population du régime iranien. C'était pas sa priorité.
C'était même pas dans sa vision. Mais c'était possible.
Ça aurait été autre chose.
C'était une autre guerre. Il fallait la faire autrement.
Allez, d'autres questions au général Desportes au 32-16. Hein, n'hésitez pas à nous appeler. C'est le général Vincent Desportes qui est face aux grandes gueules. On parle de l'Iran, de la guerre. Tiens, on parlera aussi de la position française. Oui. On a du mal à la définir. Est-elle équilibrée? Est-ce que la France devrait aider les Américains à se sortir de ce bourbier? À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Le général Vincent Desportes est face aux grandes gueules ce matin sur RMC, RMC Story, face à Zora Bitton, Flora Gebali et Charles Consigny. Général Desportes, et la France dans tout ça? Quelle est la position française? Alors, elle se veut équilibrée, on dit qu'on n'est pas dans cette guerre, mais est-ce qu'il serait pas temps finalement d'aider nos amis américains à sortir de ce bourbier?
Alors moi, je crois, si vous voulez, on peut pas avoir été méprisé et injurié par le président Trump pendant des mois et des mois, qui a même voulu s'emparer d'une petite partie de l'Europe qui s'appelle le Groenland, et ensuite, au coup de sifflet, arriver. C'est-à-dire, les Américains sont habitués à ce que les Européens soient des vassaux. Et effectivement,
soit au garde à vous.
Et effectivement, on l'a été, parce qu'on l'a bien voulu, énormément. Mais on a bien compris aujourd'hui qu'au fond, il y a un schisme occidental et qu'il y a les Américains d'un côté et nous, d'autre part. Donc, on n'a pas à arriver comme ça au coup de sifflet. D'autre part, bien sûr, nous avons des moyens militaires qui sont très loin, nous, Européens, d'être négligeables, et la France en particulier. Mais c'est rien par rapport aux moyens américains. Si on n'est pas, on ne sera jamais un game changer dans cette affaire-là. Donc, on n'a pas à venir. Nous ne sommes pas des supplétifs. Moi, j'ai été très frappé par la guerre en Afghanistan, qui était la plus longue guerre européenne. On a eu 30 000 soldats au combat pendant 12 ans ou 13 ans.
30 000 soldats français.
Soldats français au combat. Et on n'a jamais eu droit à la parole dans cette affaire-là. On était vraiment considérés comme des supplétifs, c'est-à-dire que les Américains prenaient soin de répartir les bataillons allemands, français, espagnols, un peu partout, de manière à ce que ce soit toujours un chef américain qui y gagne. Nous, en tactique, on a été très bons, la stratégie était mauvaise, mais la stratégie a été faite par Trump. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'un truc qui n'a pas marché et d'être
l'outil de rattrapage. Oui, mais en même temps, pour y aller sur le Liban, on est exclu, alors qu'on a des relations très anciennes avec le Liban. On a l'impression qu'on n'existe plus, alors qu'on aurait peut-être une carte à jouer. Alors, est-ce que parce que c'est nos propres manquements, on n'a pas réussi non plus à aider le Liban à sortir sa dépendance au Hezbollah? Est-ce qu'on n'a pas aussi manqué parfois un peu de volonté?
Moi, je crois...
On est volonté dans les mots. C'est Emmanuel Macron, quand il va à Beyrouth, il est très volontaire. Mais enfin, ensuite,
il y a pas que
dans les derrière.
Non, il n'y a pas que dans les mots. D'abord, nous sommes le plus gros contingent, sauf si je me trompe, je ne crois pas, français, et le plus gros contingent de la FINUL. Nous sommes le pays européen qui apportons le plus d'aide au Liban.
Enfin, la FINUL, elle a servi à quoi, la FINUL sur place? On n'a pas désarmé le Hezbollah.
Malheureusement, elle est
la cible de tir. On a perdu un soldat français. C'est sans doute d'ailleurs le Hezbollah qui l'aurait tué.
La FINUL, c'est pas une force qui a été chargée. Elle n'est pas équipée pour aller désarmer le Hezbollah. On a bien compris, puisque même l'Israélien n'y arrive pas, que c'est vraiment une guerre. Elle n'a pas été faite pour ça. Elle a été faite pour séparer, au contraire, des contingents qui voulaient se faire la guerre. Je note que le président Aoun a très largement dit que la France était importante et encore maintenant. Alors maintenant, qui a dit la France, vous venez pas? C'est qui? C'est le Premier ministre Netanyahou. Pourquoi? Ben parce que la France a eu le courage de reconnaître Gaza comme État, comme maintenant de nombreux pays européens. Et je crois que c'est bien. Moi, je crois que la France et l'Europe, parce qu'on peut pas dissocier la France de l'Europe, eh bien, elle doit se tenir droit dans ses bottes. Ce qui nous différencie des États-Unis, c'est notre respect d'un certain nombre de valeurs occidentales et le respect du droit international que tant Netanyahou que Trump ou que Poutine bafouent tous les jours. Moi, je crois qu'il faut se tenir à ce qui nous a fait, c'est-à-dire le droit.
Mais dans ce cas-là, il faut être moins dépendant des Américains. Notre armée reste encore très dépendante des Américains. Certains canons ne peuvent pas être utilisés, ce qu'on envoie en Ukraine sans que les Américains donnent leur autorisation. Il faut sortir de cette dépendance.
Vous avez mille fois raison. Et c'est pour ça, mais vous avez noté, vous me posez la question, mais vous connaissez une partie de la réponse, peut-être plus. Vous savez très bien que l'Europe est en train d'essayer de construire son autonomie. Et elle avance à grands pas. Elle a une difficulté, vous le savez, c'est qu'à part un décideur, il y en a 27. Et c'est pour ça aussi qu'il faudra rapidement changer la gouvernance de l'Union avec son machin tripartite, la Commission, le Conseil et le Parlement. Ça marche pas, ce truc-là. Donc on voit bien que la France a absolument besoin de l'Europe, mais pas de cette Europe-là. Une Europe qui permette d'avancer dans les grands projets avec l'autonomie industrielle, l'autonomie numérique,
et l'autonomie militaire.
L'autonomie militaire, bien sûr, c'est la première. Mais il n'y a pas d'autonomie militaire si vous n'avez pas d'autonomie industrielle. On voit bien que tout ça est lié. Les projets avancent, en particulier depuis la création du groupe E6 en janvier, avec les grands pays européens qui ont la volonté d'avancer sur les grandes voies de l'autonomie.
Quand on vous écoute, on se demande si justement en France, par exemple, dans les stratégies que vous évoquez, et vous avez une très grande expérience... ce qui est incroyable, c'est que vous déroulez des stratégies avec des solutions que même les non-initiés peuvent comprendre. On vous comprend parfaitement. Et pourtant, lorsqu'on est dans le pouvoir, lorsque le pouvoir doit trouver des solutions, elles ne sont pas là. Qu'est-ce qui se passe quand des gens comme vous, avec tant d'expérience, et vous êtes nombreux, vous venez de parler de l'Europe, de son mode de fonctionnement et de la manière dont l'Europe est agencée et qui ne marche pas. Et pourtant, vous proposez des solutions qui marchent. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ceux qui marchent n'arrivent jamais au pouvoir pour être mis en œuvre? Alors, c'est un vrai problème quand même.
Alors le jamais n'est pas tout à fait vrai, et c'est mon deuxième point. Mais mon premier point, c'est que la stratégie suppose le recul et le temps long. Et on voit bien que c'est une des faiblesses des démocraties, c'est qu'elles sont happées par le quotidien, happées par le municipal, happées par, etc. Donc les politiques ont beaucoup de mal à se séparer du quotidien pour faire de la stratégie. Ensuite, il y a une formule que j'aime beaucoup, qui est Nicolas Bavrez d'ailleurs, et qui dit au fond, il y a eu deux sortes de présidents à la Ve. Il y a ceux qui ont gouverné pour la France et ceux qui ont gouverné pour les Français. Et il dit pour la France, il y en a eu trois. Évidemment, le plus grand d'entre eux, c'est Charles de Gaulle, hein, qui lui avançait pour la France, et puis Pompidou et Giscard d'Estaing un peu moins. Et ensuite, on a gouverné pour les Français. Et je crois que c'est important la stratégie, et je le dis dans mon livre. Il n'y a pas de résultat en stratégie. Il n'y a que des résultanteux. Si je fais en France en sorte que la France tienne, alors les Français en bénéficieront. Mais si je vise directement le bonheur du consommateur, ça ne marchera pas. Ah bah. Et donc, il y a capacité-là qui est extrêmement importante.
Écoutez David de 32-16.
Moi, je voulais qu'on parle un peu de votre livre, parce que vous définissez la stratégie comme la préparation de l'avenir, si je vous paraphrase un peu. Mais vous citez, l'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire.
C'est une phrase de Bergson.
Il est cité.
Parce que c'est une très belle phrase de stratège.
Il semblerait que votre livre, ce soit un manuel d'action politique, puisque la politique n'est que le désir d'avenir, n'est que la préparation des lendemains. Absolument. Et d'ailleurs, désir d'avenir, c'est marrant, parce que ça a été un slogan politique de Ségolène Royal. Et pour autant... On voit que la stratégie nulle part en politique. Voilà. Alors effectivement, on n'a pas d'Assemblée nationale qui nous permette vraiment de gouverner. Comment vous expliquez que la stratégie ait autant quitté l'action publique ?
C'est un peu pour ça que j'ai écrit. Moi, j'ai écrit beaucoup de livres de stratégie, mais là, j'ai voulu écrire un livre simple, hein, qu'on lit en une heure et demie, et qui donne l'essentiel de la pensée stratégique. Comment faire ? Moi, je parle beaucoup autant de stratégie que d'attitude stratégique. D'ailleurs, je passe un chapitre sur l'attitude stratégique. Qu'est-ce que c'est que de prendre un problème de manière stratégique? Voilà. Et c'est parce que, ça paraît très compliqué. Les gens ont peur du terme de stratégie. Faire de la stratégie, d'ailleurs, ils font pas la différence entre la tactique et la stratégie. Et on enseigne très peu la stratégie. Moi, j'ai dirigé l'école de guerre où on forme les futurs généraux, les futurs amiraux. En gros, c'est la véritable seule grande école où on forme à la stratégie. Moi, j'interviens beaucoup. Je dirige un cabinet de conseil en stratégie pour les entreprises. Je m'aperçois que les entreprises connaissent bien, mais ils n'ont pas suffisamment conceptualisé. Et donc, je crois qu'il faut aider les gens à aller penser de manière stratégique d'abord l'avenir et le présent comme la manière de produire l'avenir.
Il faut envoyer ce livre à tous les candidats à l'élection présidentielle. David
absolument,
est avec
nous.
Ils ont fait le temps de lire. Ils préfèrent être sur Twitter.
Bah, ils écrivent des livres, tout ça aussi.
Ils les font écrire, oui.
David est avec nous au 32-16. Il nous appelle du Var. Bonjour, David.
Oui, bonjour.
Vous aviez une question, David, pour le général Desportes.
Oui, est-ce que vous pensez pas que les États-Unis font ça un peu, attaquent l'Iran un peu contre la Chine, voire même contre la Russie, quoi.
Alors, ce qui est absolument sûr, c'est que quand Trump réfléchit à quelque chose. Son axe central de réflexion, c'est l'opposition sino-américaine. Donc, il ne prend pas de décision qui, enfin, sans réfléchir à.
Donc là, il y a quand même une stratégie, alors.
Non, il a une obsession. Et il a raison. Et il a pensé, ce qui n'était pas tout à fait vrai, parce qu'il n'avait peut-être pas vérifié que la Chine avait presque un an de réserve en termes de pétrole. Mmh. Mais il sait que cette affaire-là, si elle durait un certain temps, ferait du mal à la Chine. Donc, vous avez raison. En ce qui concerne Poutine, j'en suis pas très sûr, parce que Trump ne considère plus que Poutine est un adversaire systémique, évidemment, contrairement à la Chine qui l'est.
Merci David. Une dernière question avant de vous laisser, Général Desportes. Selon vous, est-ce que Donald Trump est fou ?
Non. Il n'est pas fou. Vous savez, être fou, c'est dénuer toute rationalité. On voit bien qu'il y a un certain nombre de rationalité. Mais il n'est pas fou. Il a, comme Poutine n'est pas fou non plus. Il a une rationalité. Le problème, c'est que la finalité propre de Trump, c'est lui-même et l'argent. Et donc, c'est pas avec ça que vous faites de la bonne stratégie. Mais il n'est pas fou. Le problème, c'est que sa rationalité fait un mal considérable, tant aux États-Unis qu'à l'Occident et qu'au monde entier.
Merci, Général Vincent Merci. Desportes. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous conseille la lecture de son dernier livre, Stratégie, les essentiels, chez Odile Jacob.